Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette seconde conférence de la journée de la transition professionnelle écologique et solidaire. Je suis Martin Durigneux, un des cofondateurs de l'Institut Transition, et c'est moi qui vais introduire et animer cette conférence où nous allons parler emploi dans le monde de la transition écolo avec différentes intervenantes qui se présenteront juste après. Petit rappel de la consigne, ne pas appuyer sur les micros pour ne pas déclencher un Larsen très désagréable. Et on va attaquer avec un petit plan pour que vous sachiez par où on va passer. Un premier temps avec moi sera consacré à l'économie de la transition. Qu'est-ce que c'est? Avec quelques mots-clés que vous avez déjà entendus, qu'on va chercher à définir pour que vous puissiez vous situer dans ce monde de la transition et aussi ne pas vous laisser, on va dire, hypnotiser par des mots qui peuvent être un peu attractifs mais qui ne décrivent pas nécessairement des réalités très tangibles. Donc on va décrypter un peu le vocabulaire, essayer de mettre aussi un peu de réalité tangible avec des chiffres pour se dire ça veut dire quoi bosser dans le monde de la transition écolo et solidaire, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a comme type de secteur, comment ça fonctionne. Et ensuite, après cette introduction et ses apports sur l'économie de la transition, on aura un temps de témoignage autour de trois questions posées à nos invités sur leur recrutement, leurs équipes. Et on terminera par un temps de questions de la salle où je circulerai avec le micro. Alors, du coup, petit moment tour de table. Donc, moi, je me suis déjà un petit peu présenté. J'en dirai un peu plus après. On va passer tout de suite à Marine, que tu puisses nous décrire un peu ta structure. Et puis aussi, avec une question que je mets... j'ai une présentation après. Bon. Une question que je te poserai un peu plus tard. Donc, juste ton prénom, ta structure, une petite description de ta structure. Et je te poserai la question juste après de comment t'en es arrivé là à travailler dans le monde de la transition. Donc ça, c'est après, pas tout de suite.
Bonjour à tous, donc à tous et toutes. Je m'appelle Marine Portera et je suis directrice commerciale et co-dirigeante de l'entreprise Elise à Lyon. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise. C'est une entreprise qui s'occupe de la collecte et du recyclage des déchets de bureau, donc pour les professionnels. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les entreprises, on installe des dispositifs de tri sélectif pour permettre aux personnes qui y travaillent de savoir où jeter leurs déchets, tout simplement. Et puis ensuite, on s'occupe de la collecte et de l'acheminement vers les centres de recyclage. Et donc la spécificité d'Elise, c'est aussi d'être une entreprise adaptée. Donc qu'est-ce qu'une entreprise adaptée? Je ne sais pas si vous êtes familier encore des termes nouveaux du secteur. C'est une entreprise qui emploie une grande majorité de personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Donc on a un objectif également d'insertion professionnelle pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi du fait de leur handicap. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait chez Elise.
Parfait, merci. Caroline, à toi, je suis l'ordre de mes slides.
Bonjour, donc je suis Caroline Sabat, la directrice de l'association Arthropologia. On est une association naturaliste et donc notre objet est d'agir pour faire évoluer les pratiques et les comportements en faveur de la biodiversité et des pollinisateurs. On a trois grandes missions, produire de la connaissance scientifique. Donc on a plusieurs programmes de recherche en lien avec les pollinisateurs et toutes les actions pour les sauvegarder, comme la végétalisation. On accompagne techniquement les collectivités, le monde agricole et les entreprises dans leurs actions de végétalisation, de restauration et de renaturation des milieux. Et on mobilise massivement. Donc pour ça, on crée des outils pour donner à l'ensemble des acteurs les clés pour agir. On mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour remettre la biodiversité et le vivant au cœur des débats.
Merci. À toi, Claire.
Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Claire Delorieux. Je suis gestionnaire RH pour une société coopérative qui s'appelle Grapp. Cette coopérative, en fait, c'est le fruit d'un regroupement de coopératives qui a deux axes de travail et deux valeurs fondamentales. C'est l'alimentation bio et locale, ainsi que la coopération au travail et l'autogestion. Donc nous regroupons un ensemble d'entreprises qui ont ces deux axes de travail. dans la partie aval de l'alimentation. Ça veut dire qu'on n'est pas une structure agricole, mais toutes les activités qui travaillent dans l'alimentation, que ce soit de la vente de produits, des épiceries, ou de la transformation, comme des chocolatiers ou des brasseurs de bière, des personnes qui fabriquent des produits alimentaires comme des steaks végétaux, des choses comme ça, tous les transformateurs, ainsi que certains consultants depuis quelques années aussi qui accompagnent des collectivités sur l'alimentation, peuvent faire partie de notre groupement de coopératives dans lequel ils vont bénéficier de services support sur un accompagnement économique à leur activité, un suivi de leur comptabilité et toute la gestion de leur vie RH, notamment. C'est le pôle social, là où je travaille en ce qui me concerne.
C'est très bien. C'est très clair. Merci beaucoup. Un petit mot avant d'attaquer sur ma présentation plus détaillée. Sur l'Institut, pour que vous ayez bien en tête qui on est et quelles sont nos missions, l'Institut Transition, c'est un institut associatif et non lucratif qui est né à Lyon en 2019, fondé par des personnes qui étaient dirigeantes ou très mobilisées dans des associations ou des entreprises écolo et solidaires, et des formateurs, formatrices qui étaient engagés à pas mal d'endroits, ou les deux pour la plupart, on était à la fois dirigeants, dirigeantes de structures et formateurs, formatrices. Avec trois missions, la première qui est celle qui nous a mobilisés ici, c'est d'accompagner les personnes en évolution professionnelle vers des métiers et des missions pour la transition écologique et solidaire, avec un programme que vous avez pour certains et certaines découvert qui s'appelle Nouvelle Voie, et puis par plein d'autres actions comme cette journée qui ne conduit pas nécessairement à passer par Nouvelle Voie mais qui amène plein d'opportunités et de possibilités. Une deuxième mission qui est de former et outiller les associations écolo et solidaires et les entreprises écolo et solidaires dans le développement de leurs compétences pour pouvoir avoir plus d'impact, plus d'utilité, plus d'efficacité. Et une troisième mission qui est d'accompagner la transition écologique d'associations d'éducation populaire, d'associations d'action sociale, culturelle et sportive pour les aider à intégrer la transition écologique dans leur métier, dans leur pratique. Donc nous, aujourd'hui, on est réunis autour de la première grande mission qui est d'accompagner celles et ceux qui sont en évolution professionnelle. Petit mot pour expliquer cette conférence, la première partie, surtout celle que je vais porter, d'où provient notre regard, d'où viennent nos apports. C'est quelque chose que j'inviterai toujours à faire quand des personnes vous disent la transition c'est, l'écologie c'est comme ça qu'on changera le monde, etc. Leur demander simplement de se situer, c'est même pas la peine de les contredire, ou simplement de dire mais d'où tu parles, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait, dans quelle structure tu es engagé, pour expliquer en fait, le regard que tu portes, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, de même que personne ne dit, c'est rare que des gens disent absolument n'importe quoi, donc souvent quand ils disent voilà ce que c'est un peu la vérité, mais c'est une vérité qui est située par rapport à leur regard, leur vision. Et dans le même esprit, je vais me positionner pour que vous sachiez d'où je parle et où mon regard, d'où mon regard se situe. Donc, je suis un des cofondateurs de l'Institut Transition, que j'ai cofondé du coup il y a maintenant 5 ans. Cofondateur et président d'Anciela, que vous allez pouvoir rencontrer dans l'Archipel des Solutions, qui est une association dans laquelle on accompagne plein d'initiatives qui naissent et qui se développent, écolo et solidaire, associations et entreprises. J'ai par exemple accompagné à peu près 200 initiatives depuis 10 ans, dont certaines sont présentes à différents endroits aujourd'hui. Et donc j'ai un regard d'accompagnateur de jeunes pousses qui ont créé pas mal d'emplois, mais qui du coup l'ont fait depuis une dizaine d'années. Donc j'ai une moins bonne connaissance potentiellement de structures qui sont nées il y a 50 ans. Et je suis coprésident de la Maison de l'Environnement en tant que président d'Anciela, avec Caroline ici présente aussi, qui est coprésidente de la Maison. Et donc ça me met en lien avec beaucoup d'associations de protection de la nature, du patrimoine naturel, du patrimoine historique et de la citoyenneté active, qui du coup m'a amené à rencontrer des structures qui pour le coup avaient plutôt 30, 40 ans, 50 ans d'existence et avec lesquelles j'ai appris à cohabiter et à comprendre leurs enjeux. Ce regard, il va être nourri de ces expériences que je viens de vous partager, mais aussi de deux recherches qu'on mène. Une étude qu'on a menée en 2021-2022 sur économie et métiers de la transition, et à la fois une étude quantitative, on essaie de documenter toutes les initiatives qu'on pouvait trouver d'économie de la transition et de voir un peu les emplois, ce qu'il y avait derrière. Et qu'on a continué d'actualiser, alors de manière moins profonde, mais avec une analyse des offres d'emploi, puisqu'on collecte à peu près 300-400 offres d'emploi par an, qu'on met en lumière dans notre lettre Évolution, et donc et qu'on partage à nos apprenants et apprenantes. Et dans ce cadre-là, en fait, du coup, on en a fait des analyses statistiques que je présenterai un petit peu après, qui ne sont pas exhaustives, qui ne sont pas absolues, mais qui sont assez orientées sur des profils qui peuvent être les vôtres, puisque c'est les offres d'emploi qui sont, on va dire, plutôt adaptées à des personnes qui ont des parcours de reconversion et qui ont souvent une vie précédente, qui était chef de projet, cadre à la com, au marketing, au commerce, etc. Et qui, du coup, a un peu épuré de toutes les offres d'emploi que, de toute façon, vous n'allez jamais répondre, ultra technique sur des métiers de dépollution des sols ou ultra, manuel dans les déchets, par exemple, où vous n'allez pas forcément devenir demain collecteur de déchets pour telle ou telle structure, même si on a une personne qui a fait une nouvelle voie qui est devenue pendant un temps collecteur, effectivement, chez les alchimistes. Donc c'est pas du tout impossible, mais il y a peu de chances que vous bossiez chez Veolia dans un centre de tri demain. Donc on a évidemment épuré un peu les offres, ce qui les rend plus représentatifs des chiffres parfois de l'INSEE ou de l'ADEME. Donc voilà, je parlerai en fait avec ces mes expériences vraiment très personnelles d'accompagnement d'initiative, de co-directeur du magazine Agir à Lyon, de plein de choses qui m'ont amené à avoir une veille très active sur nos emplois dans la transition écolo et solidarité, et avec ces études qu'on a pu mener et qu'on mène chaque année. Petit tour de table, du coup, avant de commencer, je vais m'y plier, même si ce sera assez vite plié. Pourquoi avez-vous décidé de travailler dans une structure porteuse de la transition écologique et solidaire ? Personnellement, c'est à 15 ans que j'ai décidé de m'engager dans l'écologie et je n'ai jamais pensé faire autre chose que l'écologie et la solidarité. Donc j'avais monté en Antilla, j'avais 17 ans, et j'ai fait Sciences Po pour vivre un engagement politique militant pour essayer de faire bouger les lignes. Et à la sortie de Sciences Po, après avoir bossé pendant quelques mois en cabinet de conseil en politique publique, je me suis dit, en fait, non, c'est vraiment le monde associatif, l'engagement qui vont me brancher. Et donc, je ne me suis jamais posé la question. Et j'ai gardé ces engagements en étant prof dans le supérieur à côté pour être à fond sur Antilla. Puis à la création de l'Institut, je suis devenu un des coordinateurs salariés de l'Institut pour faire tourner la boutique. Et donc, du coup, j'ai pas eu de déclic écolo, j'ai pas eu de moment où je me suis dit je vais bosser dans l'écologie. Ça a été quelque chose qui s'est fait de manière très naturelle dans mon parcours. Donc, je suis pas un exemple souvent très inspirant pour j'ai eu un déclic et j'ai envie de bouger, je me reconvertis parce que j'ai pas connu de reconversion. J'ai beaucoup évolué dans mes engagements et dans ma manière d'agir, mais j'ai pas eu ce moment où j'ai changé. Et du coup, on peut passer la parole de manière logique à toi, Caroline. Mm-hmm. Tu peux prendre ton micro jaune. Mm-hmm. Couleur, tu as remarqué que c'est la charte d'Arthropologia quand même. C'est pas mal.
Pourquoi je pense que la question s'est pas posée quand on a créé l'association avec Hugues, où moi au début je faisais partie du bureau. Le statut associatif, on avait fait un peu le tour des différents statuts que pouvait prendre un petit peu le bébé qu'on voulait faire naître. À un moment, on a pensé à un insectarium pédagogique, mais il y avait trop de... Oui. Il y avait trop de choses qui ne collaient pas avec nos valeurs. Et en fait, c'est... Voilà. Bon, c'était une évidence. Je ne sais pas quoi dire.
Qu'est-ce que tu as fait avant, quand même ? Tu n'es pas née dans l'arthropologie.
T'as un bébé d'arthro. Avant, j'étais ethnologue et je faisais de la recherche à l'ancien musée Guimet, le muséum d'histoire naturelle de Lyon. Et je travaillais sur la relation entre les hommes et les insectes. Donc voilà, c'était pas très loin, ce qui m'a amené jusqu'ici.
Alors moi, pas très original, aussi un peu comme Martin. J'ai pas eu besoin de faire de virage parce que j'ai toujours eu envie de sauver le monde, donc tout naturellement, je me suis dit il faut que je fasse des études qui ont un rapport avec peut-être quand on est jeune et qu'on veut sauver le monde, on se dit qu'il faut travailler dans soit faire de la politique ou soit travailler dans une ONG. Donc j'ai toujours pensé que je travaillerais dans une ONG. J'ai fait des études de droit. Je me suis petit à petit spécialisée au gré de mes engagements aussi perso dans des assos environnementales. Vers un master de droit en protection de l'environnement. Donc petit à petit, j'avais déjà orienté mon parcours. Et peut-être mon petit switch, c'est qu'en sortant de mes études, je me voyais pas sauver le monde de la manière que j'avais envisagé à la base, à savoir travailler dans des grosses ONG ou faire de la politique, parce que ça me semblait trop gros pour moi. Ça me semblait aussi pas adapté au mode de vie que je voulais, que je voulais, c'est-à-dire travailler dans des grandes, grandes villes. Bon, Lyon, c'est un peu grand, mais travailler à Genève ou à New York ou dans des villes où toutes les grosses ONG se rassemblent. Donc, je me suis dit que ça m'intéresserait même plus d'agir en local. Et donc, petit à petit, j'ai restreint ma recherche sur du local et aussi sur un sujet dans le secteur de l'environnement qui me semblait avoir une possibilité d'action à l'échelle d'une vie, enfin, de voir les résultats à l'échelle d'une vie, parce qu'il y avait certains sujets qui me semblaient désespérés, en tout cas qui m'inquiétaient trop pour que je mette ma pierre à l'édifice. Donc voilà, j'ai choisi le secteur des déchets. Je trouvais qu'il y avait des choses palpables à faire qui pouvaient faire la différence à l'échelle d'une vie. C'était ça.
Et t'es arrivée à Élise directement ?
Je suis un bébé Élise. en sortant de mes études, oui, bah, petit à petit, j'ai fait quelques... J'ai travaillé dans des assos et autres. Et puis, j'ai vu... Ouais, voilà. En fait, j'avais un master en droit de l'environnement et je me suis dit, je vais faire les choses dans l'autre sens. Un peu, je pense que peut-être vous allez tous faire maintenant, sur les parcours de transition. J'ai pris le poste qui s'ouvrait dans l'entreprise Élise. J'ai choisi l'entreprise avant le poste parce que j'avais lu des articles sur cette entreprise. Le dirigeant me semblait tout à fait une personne bien. J'avais lu des choses sur le mode de management et ça m'attirait. Ça me semblait adapté à ce que je voulais. Donc il y avait un poste d'assistante administrative et j'y suis allée. Évidemment, tout le monde m'a dit de ne pas le faire. Parce que j'avais un bac plus 5 et que j'allais être payée au SMIC et que c'était complètement du gâchis. Et puis, en fait, j'ai suivi ce que je pensais être juste et maintenant, ça fait 9 ans que je suis chez Élise. Je suis très, très heureuse.
Et directrice commerciale. Voilà. Tu as un petit peu eu de la promotion en interne.
Bah, c'est juste que quand je suis arrivée, on était 19 et maintenant, on est 110. Donc, on était 3 dans les bureaux, on est 35. Donc voilà, je suis restée campée sur mes positions.
En tout cas, c'est un premier bon conseil qu'on peut noter sur parfois choisir l'entreprise et pas forcément, ou choisir la structure et pas forcément.
Oui, mais c'est choisir la question de la fin. Ouais, mais oui, clairement. Choisir l'entreprise, choisir les gens avec qui vous travaillez et puis aussi s'écouter. Quoi. Quand on sent que c'est le bon endroit, il faut y aller.
Donc, tu as une heure pour trouver un autre conseil.
J'en ai deux autres.
Ah, bah très bien. On est sauvés.
Alors, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'emplois, mais pour synthétiser, on va dire que j'ai d'abord eu une première carrière dans le monde de la culture, où je travaillais déjà sur la partie administration en fait, de compagnie de théâtre. Donc ça reste le dénominateur commun finalement. Je réfléchissais pour préparer cette journée. Et quel pouvait être le dénominateur commun. Et finalement, contre un peu tous les conseils que moi-même je vais donner en fin de conférence, moi, finalement, je crois que j'ai la partie métier m'a suivie sur mes compétences plutôt de... Ben, je suis peut-être plutôt à l'aise avec toutes les parties administratives, les chiffres, etc. Tout un tas de choses que les gens détestent en général. Et c'est un peu avec cette casquette que, par contre, moi, je me suis toujours engagée pour des structures qui m'intéressaient, qui avaient du sens. Donc, effectivement, d'abord dans le spectacle vivant, sans jamais non plus me poser la question de l'intitulé du poste, du salaire, bien évidemment, des choses comme ça. Donc, ça a été très riche. Et par contre, voilà, dans le spectacle vivant, c'était l'aspect, la dimension humaine qui est dans l'ESS. Parce que l'ESS, ben, comme vous le savez, c'est pas seulement les produits qu'on utilise ou les valeurs qu'on met en place, mais l'humain est aussi au cœur du projet et le fait de travailler ensemble, c'est vraiment le cœur de l'ESS. Et ça me manquait un petit peu dans, on va dire, le monde du spectacle vivant, qui est peut-être pas assez structuré et qui a encore du travail à faire, mais ça, c'est l'objet d'une autre journée professionnelle. Donc, petit à petit, j'ai quitté ce milieu, j'ai fait une formation de cuisine, j'ai été cuisinière, et puis après, j'ai travaillé pour le Grappe, d'abord dans une de leurs structures, et puis en plus de plus en plus de quelques missions au sein de l'équipe support. Et puis maintenant, j'y travaille à temps plein, donc au pôle social, comme je disais tout à l'heure, donc sur la partie RH.
Et dans quelle structure tu as commencé au GRAP?
J'ai commencé à la Super Aldoulin.
Merci à toutes les trois. Je vais basculer du coup dans une petite présentation de quelques concepts et de quelques chiffres clés que je vous proposais d'étudier tout à l'heure. Alors, quelques mots-clés que vous pouvez entendre quand on vous parle de transition écologique. J'ai fait des distinctions. Alors, il y en a qui sont très classiques, qu'on retrouvera dans tous les rapports ADEME. D'autres, c'est un peu des innovations personnelles pour exprimer des choses. D'abord, un premier concept qu'on a beaucoup, c'est économie verte, auquel j'ai ajouté économie rose, qu'on retrouve à certains endroits, qui revient, on va dire, à décrire l'action sociale et sanitaire et sociale très classique, qui rentre en fait dans la même logique que l'économie verte. C'est en fait un ensemble de secteurs d'activité qui ont été considérés comme clés par les institutions publiques, l'ADEME en particulier, pour analyser le processus de transition écologique de notre société. Donc on retrouve les déchets, l'énergie renouvelable, la dépollution des sols, toutes les formes de dépollution. Pour le même un peu raisonnement, les grandes solidarités, les centres d'hébergement de réinsertion sociale, les entreprises d'insertion, etc., qui en fait vont venir répondre à un enjeu que la société a jugé décisif de plein de manières différentes et pas toujours de la bonne manière. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'analyse de ce qu'on appelle l'économie verte, n'est pas décrit la qualité de la structure dans sa capacité à répondre positivement aux enjeux, mais simplement le fait qu'elle est dans ce secteur. Donc quand on parle d'énergie renouvelable, vous avez potentiellement des grandes entreprises qui sont dans la pétrochimie, qui ont investi dans les énergies renouvelables, sont dans l'économie verte. Donc vous pouvez vous bosser, l'économie verte, à bosser pour certains groupes pétroliers. Effectivement, vous êtes bien dans l'économie verte si vous installez des panneaux photovoltaïques. De la même manière, vous pouvez vous retrouver chez une entreprise de gestion des déchets pas tout à fait écologique, voire franchement mafieuse. Là, ça dépend un peu de celle que vous pouvez rencontrer dans toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vous êtes dans l'économie verte, puisqu'en fait, c'est bien leur job de bosser sur les déchets, pas forcément de la manière qu'il faudrait, mais qui bossent quand même. Alors là, du coup, j'ai mis un bon exemple. J'ai mis un bon exemple, avec un bon exemple positif, et Lise, qui effectivement rentre parfaitement dans l'économie verte. Alors de fait, en réalité, c'est aussi le cas d'Arthropologia, j'aurais pu mettre les deux, mais on est bien là dans le secteur des déchets avec Élise, et Rose d'ailleurs, vous doublez, puisque aussi en tant qu'entreprise adaptée, une structure qui va intervenir sur le social. Donc pour moi, l'enjeu d'avoir ce terme d'économie verte, c'est de savoir, quand on vous donne des chiffres sur le sujet, d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Quand on vous dit qu'il y aura X millions d'emplois qui vont être créés, bah de se dire quels sont ces emplois en fait. Parce que si c'est des emplois déboueurs, sous-payés, maltraités, dans des entreprises complètement classiques qui n'ont que seul pour but d'exploiter des marchés de déchets au moindre coût pour des collectivités territoriales qui ne veulent pas faire d'efforts, bah oui, c'est l'économie verte. Ça, vous en avez plein dans certaines villes, dans certains territoires. Et donc, vous serez peut-être un peu déçus si vous retrouvez chef de projet dans ces boîtes-là, quoi. Et ça, ça a souvent été montré parce qu'il y a pas mal de scandales hein, sur les énergies renouvelables, sur les déchets, sur la dépollution des sols. Mais il faut l'avoir en tête. En fait, les chiffres qu'on nous donne là ne sont pas forcément représentatifs de la réalité des emplois. Et il faut, on le redira à chaque fois, mettre ses lunettes et avoir des bonnes questions à poser qu'on pourra explorer ensemble aujourd'hui, mais aussi celles qu'on explorera au fur et à mesure de cette journée. Quelles sont les bonnes questions à poser en fait, pour diagnostiquer si l'entreprise, l'association, la structure vers laquelle je vais est une structure où je vais me retrouver réellement en conformité avec mes valeurs, où elle est bien sur le sujet qui me touche, mais en train de le gérer n'importe comment ou pas du tout de la manière que moi j'envisagerais. Deuxième mot qu'on retrouve beaucoup aussi dans les rapports, c'est la notion d'économie verdissante. Donc là, on parle d'une économie qui est classique sur des sujets classiques. Donc ça peut être la restauration, ça peut être l'enseignement, ça peut être les transports, ça peut être n'importe quoi en fait, mais qui a un enjeu à intégrer la transition écologique dans ses activités, à des degrés différents, puisque pour un enseignant ou une enseignante dans le primaire, ça va être dans ses programmes, dans ses activités avec les enfants, donc c'est plutôt léger en fait à intégrer, ça ne change pas de grands enjeux structurels. Si on parle de la métallurgie ou si on parle du BTP, là ça va être des transformations structurelles assez importantes. Si on parle de l'alimentation, c'est des transformations structurelles assez importantes avec des résistances assez importantes comme les dernières actualités ont pu le montrer. On n'a pas accompli très bien pour l'instant notre transition agricole. On est encore chaque année plus utilisateur de pesticides que l'année précédente. Donc non seulement on ne progresse pas, mais on a plutôt tendance en fait à régresser en termes de destruction du vivant dans le monde agricole, même si la bio malgré tout progresse, et ça c'est positif. Et donc dans cette économie verdissante, c'est pareil, vous avez des structures qui font un petit pas, dans des cabinets de conseil RSE où vous voyez des choses un petit peu avancées, ça bouge un petit peu. Il y en a qui font des grands pas et qui vont être vraiment porteurs de transformation. Et c'est pour ça que le bon exemple, c'est le GRAP, où là, on a vraiment une transformation du secteur agricole et alimentaire avec à la fois le côté écolo et le côté coopératif qui va vraiment faire bouger les lignes. Et on a des cas où, en fait, l'économie est verdissante sur le papier, mais en fait, ne l'est absolument pas. Donc, le cas qui peut être présenté, c'est le scandale énorme qu'il y a autour aujourd'hui du gaspillage alimentaire, mais aussi du gaspillage aujourd'hui vestimentaire, on en parle, vu qu'on impose aux entreprises de ne plus détruire les vêtements qu'elles produisent. Elles doivent les donner, elles les donnent, mais elles bénéficient d'une défiscalisation énorme, ce qui fait que maintenant elles se mettent à surproduire en considérant le fait qu'elles vont pouvoir défiscaliser dessus. Donc là, on est sur un scandale total où c'est une tentative de verdissement par la loi qui en fait n'est pas en soi une mauvaise loi. L'intention n'est pas mauvaise, mais il y a un effet rebond tellement important, un risque d'effet d'opportunité tellement important, que les boîtes, elles s'en servent et elles font vraiment pire. Pour avoir bossé pour accompagner la banque alimentaire sur sa transition écologique, il y a des grandes enseignes qui amènent systématiquement chaque semaine la même palette du même produit à la banque alimentaire. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils vont gaspiller ce produit. Mais de toute façon, la loi fait qu'ils sont défiscalisés dessus. Pour que leur rayon soit bien plein, ils prévoient d'avance le gaspillage, vu qu'ils défiscalisent, ils le donnent à la banque alimentaire. Et parfois, la banque alimentaire ne peut pas s'en débarrasser, parce qu'il n'y a pas de clients pour ce produit-là. Et c'est eux qui doivent, à leurs frais, détruire le produit. Donc en fait, on est dans une aberration. Là, on est dans l'économie verdissante, dans ce cas-là, de moins lumineux, quoi. Donc là, c'est pareil, on a le même phénomène. En fait, il y a l'enjeu de mettre ses lunettes et se dire là où je vais bosser, est-ce que ça correspond vraiment, en posant quelques questions. Et même en entretien d'embauche, je vous conseille de le faire, de poser quelques questions pour, si vous avez besoin, de valider avec la structure quelques points qui vous tiennent à cœur. Il n'y a pas que sur les questions managériales que vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi des questions sur l'impact de la structure. La différence, c'est que vous pouvez aussi, avant l'entretien d'embauche, vous renseigner en ayant, c'est ce que je dirais à plusieurs reprises, des personnes ressources. Donc nous, on peut en être Ancilla, Institut, parce qu'on a l'habitude de recevoir beaucoup de public, de recevoir beaucoup de mails, de répondre à beaucoup de questions, pour dire voilà quelques personnes à rencontrer pour vous servir un peu de phares qui vous disent attention, là il y a des rochers, non c'est pas un bon plan, et vous expliquer pourquoi. Par contre, quelqu'un vous dit cette structure, à mon avis, c'est pas une bonne structure, l'enjeu c'est pas de dire ah ok d'accord c'est noté parce que je te fais confiance, non c'est mais pourquoi, parce que en fait chaque argument vous donne de la matière pour juger par vous-même, mais aussi pour vous recréer vous l'argumentaire en interne et pas avoir à chaque fois besoin de passer un coup de fil pour moi à Caroline ou à Hugues à chaque fois que j'ai une question pour le magazine Agir à Lyon sur telle boîte, est-ce qu'elle est bien sur ou telle association, est-ce qu'elle est bien sur les pollinisateurs. J'ai quelques questions clés, s'il y a des ruches et des hôtels insectes partout, ça va me poser question parce que j'ai entendu suffisamment Hugues me dire pourquoi ça c'était pas bien, du coup je reproduis le schéma, quoi. Donc c'est vachement important pour le coup, dans les deux cas, économie verte et économie verdissante, d'avoir ces personnes qui viennent nous aider à décrypter l'écosystème, et donc l'Institut Ancilla ou The Greener Good peuvent être des portes d'entrée pour vous donner des billes derrière et être capable de tomber au bon endroit. Parce que ça peut être assez déceptif, décevant, de se dire je fais une transition et j'arrive dans une boîte et en fait elle est peut-être même pas mieux que là où j'étais avant, quoi. Alors que je vais avoir fait des efforts importants, et ça peut casser quand même une dynamique, l'enjeu de prévenir cette frustration, quoi. Et donc le dernier terme, c'est le terme que nous on emploie, qui est économie de la transition, qui est un terme qui est un peu à nous, quoi, même si vous le trouvez un peu partout, mais la définition que je vais vous donner, c'est un peu la nôtre. C'est un ensemble de structures qui sont pour nous particulièrement porteuses de la transition écologique dans leurs projets d'entreprise ou d'association et dans leurs choix de développement. Et ça en économie verte ou verdissante. C'est-à-dire des structures, on va dire, elles sont vraiment, on dirait avec des termes un peu d'entrepreneuriat, innovantes, mais en fait pour moi c'est plutôt déterminées, et elles vont faire le max qu'elles peuvent. Le but, c'est pas d'être parfait, aucune structure est parfaite, mais c'est de faire le max qu'on peut. Et moi, je me bats beaucoup pour dire à toutes les personnes que je croise, n'acceptez jamais le « c'est déjà ça ». Je vais un tout petit pas, on dit « c'est déjà ça, on a fait un petit truc ». Là, on n'est pas là. Enfin, les enjeux écologiques et sociaux sont tels que le « c'est déjà ça », c'est pas assez. Par contre, le mieux qu'on peut, c'est tout ce qu'on peut faire. Ancilla pourrait faire beaucoup mieux peut-être, mais on n'arrive pas à faire mieux. L'Institut pourrait faire beaucoup mieux, mais on n'arrive pas à faire mieux. Mais on se donne tous les moyens pour à chaque fois faire mieux. Et c'est ça l'enjeu qu'on doit être capable de diagnostiquer dans ces structures qui mettent leurs projets. Pourquoi est-ce que je pense qu'Élise, en dehors de effectivement Marine et Gaëtan que je connais et que j'apprécie particulièrement, Gaëtan étant le fondateur qu'évoquait Marine, pourquoi est-ce que je pense qu'Élise est une bonne structure? Parce que par exemple, Élise s'est formée à l'accompagnement au changement de comportement pour essayer d'accompagner toutes les boîtes où elles interviennent, chez Ancilla et chez d'autres partenaires, pour se dire on va essayer de faire le mieux possible. Ça c'est un gage, et avec une vraie sincérité, un vrai projet, qui nous dit bah, en fait, cette structure-là, elle a vraiment envie de pas juste se contenter de récupérer les déchets des boîtes et de faire du fric avec, quoi. Et qu'il y a un vrai projet d'aller vers du zéro déchet, un vrai projet d'accompagnement au-delà du projet social. Et donc, c'est des choses qu'on peut ressentir parce que dans tous les choix qui sont faits, c'est le mieux possible qui est poursuivi. Évidemment que le mieux possible absolu, ça serait que Élise n'existe plus parce qu'il n'y a plus de déchets. Mais c'est pas un mieux qui nous est accessible. Alors, même si Gaëtan l'a dit que le but dans sa vie, dans un article de Agir à Lyon, que le but dans sa vie, c'était que son entreprise n'existe plus. C'est un peu un... Enfin, il y a peu de chances qu'il le voit arriver de son vivant professionnel. Quoi. Malheureusement, il y aura encore des déchets d'entreprise dans 20 ans. L'enjeu, c'est qu'il y en ait le moins possible. Et donc ça, c'est vous qui allez être capable d'arbitrer par vos questions, par vos interrogations, par vos recherches. Et une fois que vous êtes dedans, par votre vigilance, est-ce qu'on va vraiment le plus loin qu'on peut ? Et ce qui nous empêche d'aller plus loin, c'est pas qu'on a la flemme ou c'est pas parce qu'on pourrait se faire plus d'argent autrement. Non, c'est qu'on est bloqué parce que tout simplement, c'est difficile de transformer la société. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie qu'on le fait pas. C'est parce que vraiment, il y a beaucoup d'inertie, beaucoup de défis, beaucoup de structures qu'il faut faire bouger. Et donc là, vous êtes à un endroit où vous dites, bah, on fait le mieux qu'on peut et c'est très bien. Dernier mot qu'on retrouve beaucoup aussi, il a été prononcé déjà plusieurs fois, c'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui en fait a été particulièrement structurée par la loi Hamon en 2014 avec en fait une définition claire autour de statuts. L'ESS va être définie par des statuts, le statut de coopérative. Donc là, on a la chance d'avoir un peu tous les statuts autour de la table. Pratiquement, on n'a pas de fondation ou de mutuelle, mais on a une société coopérative, on a une association, une entreprise adaptée, une association classique. Une association classique, si je parle avec Ancilla, ou une association fiscalisée avec l'Institut de Transition. Donc en fait, on a plein de statuts différents qui sont dans l'ESS. Donc l'ESS est vraiment le terreau clairement de la transition écologique, c'est là où on trouve le plus des initiatives les plus inspirantes en termes de transition écologique, celles qui vont le plus loin. Par contre, ce n'est pas une garantie, c'est pas un label, voilà, c'est-à-dire que vous avez plein de structures d'ESS qui sont dans les statuts d'ESS qui ne sont pas des labels, des fondations de grands groupes, Danone, Total, etc. Fondations sont dans l'ESS, des grandes mutuelles qui peuvent faire des choses très originales, par exemple Groupama, j'aime bien le rappeler parce qu'on est à Lyon, Groupama a choisi de donner son nom à un stade de foot qui s'est installé sur des terres agricoles où il y avait une zone à défendre parce que des terres fertiles ont été détruites. Et Groupama est une mutuelle, c'est la mutuelle des agriculteurs, donc chacun se fera une idée de cette idée un petit peu surprenante de donner son nom à un stade de foot installé sur une terre agricole. Donc ça veut dire que bah, même s'ils ont un statut de coopératif, de mutuelle, donc un statut de SS, il y a dû y avoir un truc dans les rouages qui ne s'est pas bien mis pour que cette décision puisse être prise. Et ça, en fait, y a plein de banques coopératives. Le Crédit Agricole est dans l'ESS, avec des choix politiques qui peuvent être discutables. Des grandes coopératives dans l'ESS peuvent aussi avoir fait des choix discutables. Donc on dit souvent dans l'ESS, statut n'est pas vertu. C'est-à-dire que l'ESS donne des statuts qui sont censés garantir mieux de préserver l'intérêt général, l'intérêt des salariés, la vision d'une société écologique, solidaire, démocratique, équitable, etc. Mais elle ne le garantit pas absolument. Elle met plus de garde-fous, entre guillemets. Donc c'est pareil, quand on est structure de SS, posez plein de questions. Et il y a un vrai risque de déception à arriver dans une entreprise d'insertion de SS dans laquelle on se dit « Ah, trop bien, je vais faire du social et de l'écologique, c'est génial. » Et vous vous rendez compte que les conditions qui sont proposées ne sont pas du tout les bonnes. Et qu'en fait, en termes écologiques, ça ne va pas du tout. Et puis la manière de gérer les salariés ne va pas du tout. Et la manière de gérer les personnes d'insertion ne va pas du tout non plus. Donc c'est en soi, il n'y a personne qui se fait du fric avec. C'est-à-dire que clairement, la structure ne génère pas de pognon pour un capitaliste qui est là en train de s'enrichir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle fait bien les choses. Parce qu'il peut y avoir plein de choses qui font que ça dysfonctionne. Il n'y a pas que l'appât du gain qui nous fait rater. Si vous avez envie d'aller plus loin, on a un article qui sera en lien, parce que le support vous sera envoyé si vous étiez inscrit à cette conférence. Sinon, vous nous envoyez un petit mail. On enverra le support et donc il y a un lien « Les emplois verts sont-ils vertueux ?» qui est un petit article qui récapitule ce que je vous ai dit là. Quelques chiffres clés que je souhaite vous partager. Alors du coup, attention aux chiffres toujours. On peut avoir des réalités très différentes. Comme je vous l'ai dit, l'économie verte, verdissante, l'ESS, c'est 10% des emplois. Mais ça ne veut pas dire que c'est 10% d'emplois qui sont vraiment au service de la transition écologique. Vous êtes banquier à la Banque Populaire, vous êtes dans l'ESS. Donc ce n'est pas pour autant qu'au jour le jour, vous êtes en train de vous battre pour la transition écologique ou pour les solidarités. Vous pouvez être un très bon banquier ou une très bonne banquière à la Banque Populaire et faire beaucoup de bien, mais votre boulot n'est pas forcément tourné fondamentalement là-dessus. Donc il faut faire un peu attention aux chiffres. Et donc, comme je vous ai évoqué, là, l'idée, c'est de vous donner les chiffres sur notre étude des offres d'emploi à Lyon en 2024. Nous, on a collecté 392 offres d'emploi qui ont été du coup partagées à nos apprenants, apprenantes et dans la lettre solution. Et c'est sur la région lyonnaise, parfois on s'autorise un peu quand c'est des structures à Grenoble qui sont une portée régionale, donc on a quelques-uns qui débordent, mais au global c'est quand même essentiellement lyonnais. Sur transition écologique et les nouvelles solidarités, on n'a pas inclus en fait toutes les offres d'emploi sur les professionnalités spécifiques au travail social ou au travail sanitaire. Donc en gros, on n'a pas l'offre, je sais pas, travailleur social dans un, ou travailleur social dans un CHRS, un centre d'hébergement de réinsertion sociale, on ne le met pas parce que bah, là du coup, y a des, enfin, c'est pour des professionnels très, très précis. Pareil, on n'a pas des offres en dépollution des sols parce que c'est pour des professionnels très précis. Donc en fait, on est sur beaucoup des profils de chef de projet, coordinateur, coordinatrice, animateur, animatrice dans la transition écologique et les solidarités. Donc 60% en CDI, 25% en CDD, 82% à temps plein, 18% à temps partiel. Donc on n'est pas très différent de la société française en général. Le niveau de rémunération, ce qu'on observe, c'est celui-là qui souvent intéresse le plus, c'est qu'on a un écrasement du haut. Donc en gros, on n'a pas forcément des salaires en dessous du salaire médian français. En moyenne, on est au-dessus. Mais par contre, on dépasse rarement les 4000 euros. Quoi. C'est-à-dire que concrètement, la pyramide est écrasée sur le haut. Et donc vous voyez les chiffres, c'est 44% sont entre 2000 et 2500 brut et 34% entre 2500 et 4000 brut. Donc c'est l'image qu'on aurait de l'ESS ou le monde associatif ou le monde de la transition, c'est travailler 80 heures payé au SMIC. C'est pas du tout la réalité que nous on observe. Le SMIC est très minoritaire. Par contre, et les 80 heures le sont aussi, hein, très clairement, c'est quand vous faites plutôt un parcours. Fallait, pour les 80 heures payées au SMIC, il fallait faire la conférence de Mathilde sur Entreprendre est-ce pour moi, qui est juste au-dessus. Voilà. Où là, du coup, effectivement, quand vous vous lancez dans un projet entrepreneurial, il y a une petite période plus ou moins longue qui va être à être moins payée pour travailler beaucoup plus. Mais du coup, ou alors, effectivement, vous lancez une activité au sein du GRAP, il y a une période qui peut être un peu longue où vous galérez un peu suivant le type de projet que vous avez. Si vous êtes consultant, normalement, vous décollez plus vite que si vous êtes épicier-épicière, par exemple. Et là, pour le coup, c'est aussi un enjeu pour moi à vous rattacher au métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit « Ouais, moi, je pensais en arrivant dans l'ESS que je serais plutôt mieux payé, en fait, j'ai dépassé à peine le SMIC. » Tu dis « Mais en fait, tu fais quoi ? Je suis épicier. » Je dis « Bah oui, mais en fait, dans l'épicerie, il suffit d'aller consulter 4-5 épiceries pour voir que les salaires sont forcément assez bas, le taux de marge est très bas, alors que si je suis consultant en politique territoriale agricole, peut-être que j'aurai un meilleur salaire. » Et donc, ce n'est pas forcément à regarder en général, il faut vraiment regarder par rapport au métier qui vous intéresse. Et en fait, en consultant 4-5 professionnels du métier, vous avez une indication assez précise. Mais en tout cas, il faut sortir de l'idée reçue de « on est payé au SMIC en travaillant 80 heures », ce n'est pas du tout la réalité de ce qu'on peut observer. Les secteurs clés, du coup, dans ce que nous, on a collecté, beaucoup de solidarité, de précarité. En fait, c'est un énorme volume d'emplois. Donc, même en enlevant les travailleurs sociaux, travailleurs sociales, dans la coordination de plein de structures type Habitat Humanisme, type Armée du Salut, en fait, il y a beaucoup d'offres qui sont proposées. Il y a aussi un fort turnover avec beaucoup de mobilité, forcément, puisque le secteur est très gros. Un petit pourcentage de mobilité fait très vite beaucoup de volume. Le deuxième, c'est l'alimentation. C'est un secteur qui a quand même beaucoup, beaucoup progressé. L'éducation, jeunesse, parentalité, donc les structures d'éducation au développement durable, d'éducation aux solidarités, etc. Donc aussi bien représentées, les MJC, les centres sociaux. Et le zéro déchet, réemploi, collecte de déchets. Donc là, on a finalement, avec vous trois, ces secteurs-là qui sont représentés. Et secteur, c'est quand même très général et très générique. Encore une fois, je vous invite à chaque fois vous plonger sur les types de métiers, les types d'activités, parce que ça peut complètement varier au sein du même secteur. On peut avoir des prix, des salaires complètement différents et des types d'emplois complètement différents. Pour donner une idée sur nous, ceux qui sont sortis de Nouvelle Voie un an après, qui du coup peuvent être représentatifs de parcours de profil comme certains et certaines d'entre vous, on en a 92% qui ont trouvé et qui sont ou sont dans un projet entrepreneurial. Ah, je ne l'ai pas précisé, c'est dans la slide, c'est très important, il faut avoir en tête quand même que ces chiffres sont liés aussi au parcours initiaux des personnes. C'est-à-dire que vous avez 25 ans, vous faites Nouvelle Voie parce que l'école d'ingé dans laquelle vous étiez ou parce que vous avez la fac de sociaux dans laquelle vous étiez, vous correspondez peut-être plus trop et puis vous avez fait un an de petit boulot et en fait ça, vous n'allez pas du tout avoir la même situation que la directrice marketing ou que le directeur commercial qui, à 30 ans, se reconvertit. Quoi. Qui, après 30 ans de vie professionnelle, se reconvertit. Donc, il faut avoir en tête que les chiffres, ils ne sont pas du tout analysés comme on l'aurait pour une sortie d'études d'un master, mais comme étant très liés au parcours des personnes initiales. On a des personnes qui étaient largement au-dessus de 5000 euros par mois dans leur boulot et qui font nouvelle voie quand on a aussi des gens qui sortent d'études après 2 ans, font nouvelle voie. Donc on en a 92% qui travaillent ou sont dans un projet entrepreneurial, 94% qui, dans ces 92 du coup, on diminue le spectre, qui ont trouvé dans les 6 mois et le taux de rémunération brut dans les structures de la transition, puisque certains et certaines ne sont pas dans les structures de la transition, donc peuvent aller dans des collectivités territoriales ou autres, et sont et autour de 2877 bruts par mois. Encore une fois, faudra regarder toute la pyramide. On peut avoir des gens qui poussent le truc vers le haut puisqu'ils travaillent dans le conseil en éco-conception, quand il y en a qui travaillent dans des toutes petites assos, tirent plutôt vers le bas. Et 80%, ça ne vous intéresse pas, ils trouvent que ça les a vraiment aidés. Et 100% étaient très contents. Ça, c'est autre chose. Du coup, dernière slide pour moi, c'est les secteurs, un peu quelques distinctions sectoriel pour se dire, en fait, il y a des secteurs où on va vraiment tout de suite avoir des opportunités importantes et d'autres où c'est un peu plus galère. Et donc, j'ai classé à différents niveaux ceux qui sont en phase entrepreneuriale. Là, entrepreneuriale, ça veut dire que soit vous vous lancez, soit vous rejoignez des personnes qui sont en train de se lancer ou qui sont à 2-3 personnes et où il y a un gros travail de développement. Ça peut être passionnant, ça peut être très chouette. C'est très insécurisant, très instabilisant. Si vous avez besoin de beaucoup de sécurité, ça ne va pas être le bon endroit, mais ça peut être très stimulant, très émouvant, très chouette, si vous avez envie d'aventure. Quoi. Et donc, je donne un exemple, c'est la réartisanalisation du textile en économie circulaire, où hein, de plus en plus de structures qui apparaissent pour recréer des filières en économie circulaire pour de l'habillement, pour du meuble, pour du meuble avec du coup du textile dessus. Enfin, on peut avoir pas mal de choses comme Tizu par exemple qui est parti comme ça, ou les ateliers des nouveaux designs sur de la réartisanalisation avec beaucoup de ce qu'on appelle les upcyclers, upcycleuses ou surcycleuses, si vous voulez défendre la langue française. Et du coup là on est vraiment à des phases très entrepreneuriales. Deuxième niveau, c'est une émergence forte où là, on a des structures qui, je prends le cas d'Élise, il y a 10 ans, finalement, vont connaître une très, très forte croissance pendant la période des 10 prochaines années. Donc, l'émergence forte, et ça, ça veut dire qu'on est sur des structures qui, aujourd'hui, sont peut-être à 4, 5, 10 salariés et seront peut-être à 50. Ou si ce n'est pas à 50, c'est qu'il y a peut-être 10 structures qui sont créées, ce qui est plutôt le cas qu'on retrouve dans le matériau du bâtiment. C'est-à-dire qu'on est parti de quelques structures, notamment Mineca et Bobby Réemploi, qui étaient plutôt 2-3 structures, à aujourd'hui une dizaine, une vingtaine, trentaine de structures qui sont plutôt autour des 10-15 salariés, mais on peut imaginer que le schéma soit différent et qu'on est plutôt, comme dans le cas d'Élise, le passage de 10 à, ou de 20 à 100 salariés. Troisième étape, c'est les secteurs à fort développement, c'est-à-dire que là, on a encore des grosses potentialités, les structures sont assez grosses, mais il y a des grosses potentialités de développement. Donc là, je donne le cas de la rénovation énergétique, mais le cas des déchets pourrait tout à fait s'y prêter aussi. Et on a le cas des secteurs stabilisés avec un développement plus progressif et puis les aléas que ce développement peut représenter, ce qui est le cas de la distribution, donc spécifiquement la distribution en alimentation bio et paysanne, où on a vu une forte croissance pendant 10 ans qui s'est ralentie suite à différents facteurs, notamment la surinflation liée à la guerre en Ukraine, mais qui repart aujourd'hui vers le haut. En tout cas, les chiffres de Laure Hélène du Grappe étaient positifs, donc ça m'a fait psychologiquement beaucoup de bien de me dire ça repart avec une croissance de 8% ou 9% du chiffre d'affaires. Donc pas mal de boîtes aimeraient avoir une croissance de 9% de leur chiffre d'affaires par an quand même. Mais du coup, on est sur des secteurs où là, il y a beaucoup d'emplois. Il y a du coup du turnover aussi, donc de l'emploi qui apparaît non pas avec de la création d'emplois, mais avec du renouvellement. Et donc là, vous savez, quand quelqu'un dit « je vais évoluer dans l'alimentation », je dis « il n'y a pas de problème ». Si en gros, tu es OK avec les règles du jeu du secteur et de ses différentes composantes, en fait, tu auras du boulot dans l'alimentation. Quand quelqu'un me dit « moi, je vais être sur la réartisanalisation », je pense à une apprenante cette année, Hélène, qui « faire du bien avec du beau », qui a un vrai projet autour de ça, là, il faut vraiment avoir envie de faire un entrepreneuriat. Ça tombe bien, elle a envie, parce que c'est encore vraiment à ce stade-là qu'on est. Et du coup, petit mot-clé qu'on a souvent, secteur en tension, qu'est-ce que c'est? Nous, en fait, on a très peu de secteurs en tension dans ceux vers quoi vont les personnes qu'on accompagne dans Nouvelle Voie ou dans l'Évolution Pro. En fait, c'est des secteurs qui sont décidés par les institutions publiques comme étant fortement on va dire, fragilisée en termes de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de création d'emplois que d'emplois réellement pourvus, parce qu'il y a un financement public très fort dans la rénovation énergétique et qu'on se dit, là, en fait, il y a un besoin. Mais ça peut être, par exemple, dans l'armement aujourd'hui, puisqu'on va réarmer. Donc, on a besoin de personnes qui ont ces compétences-là, qu'on n'a pas. Et donc, on a une tension. Donc, dans les déchets, on en a pu en avoir. Donc, il y a des moments où il y a des petites tensions. Dans l'épicerie, c'est le cas aussi, mais qui ne sont quand même pas du tout en proportion de la tension qu'on a sur la rénovation énergétique quand on décide de rénover tout le parc en 10 ans, enfin accélérer fortement la rénovation et qu'on n'a pas les emplois derrière, ça donne aussi des résultats assez catastrophiques parce que du coup on met des gens pas compétents sur le terrain et des entreprises pas compétentes ou pas avec le bon état d'esprit et qui du coup ne font pas bien le travail. On a la même chose sur l'énergie renouvelable avec la pose des panneaux photovoltaïques aussi. Ah, et puis dernier point, j'avais oublié que j'avais mis cette slide sur comment chercher quelques petits conseils que vous connaissez sans doute, quelques plateformes, Job That Makes Sense, qui du coup est sans doute la plus connue, Ambition ESS qui est revenue. Ambition ESS avait disparu pendant quelques temps suite à une décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la CRES s'est bagarrée pour pouvoir le réouvrir, donc ça y est, il est réouvert. Donc là, il y a un peu moins de trucs dessus puisque ça fait 3 mois que personne n'a pu rien mettre, mais ça va revenir et du coup, il y a des offres d'emploi, mais il y a aussi plein d'autres choses. L'intérêt de Ambition ESS, je trouve, par rapport à Job That Makes Sense, c'est que c'est local et aussi que vous avez du bénévolat, des événements, des formations, donc plein de ressources. Et donc, c'est vraiment un site à avoir dans son scope tout le temps. Et le réseau TI, qui est vraiment très axé sur les métiers plutôt techniques de la transition écologique. Donc là, on va avoir beaucoup sur l'énergie, la protection de la nature, la dépollution des sols. Mais ça vaut le coup de regarder parce qu'il y a des structures qui sont habituées à mettre sur le réseau TI, mais qui vont chercher des emplois un peu différents, qui vont le mettre là parce que juste elles ont l'habitude de ça, parce qu'elles, d'habitude, elles recrutent des techniciens. Et là, en fait, elles recherchent quelqu'un à la com ou quelqu'un à l'accompagnement des publics. Et le conseil que je donne un peu, et d'où rendez-vous à l'Archipel des Solutions, c'est l'engagement, les rencontres, les formations, les espaces où on se frotte un peu avec les milieux qui nous intéressent. C'est quand même vraiment clé. Et pour détecter des personnes qui vont être des sources d'inspiration, des sources d'information, des conseils pour nous, et aussi pour détecter des endroits où on pourrait atterrir et où on être connu et reconnu par le milieu qui dirait ah, « Tiens, mais je pensais à cette personne ». Il faut savoir que dans les métiers dans lesquels les personnes que nous, on accompagne, se retrouvent, il y a quand même énormément de recrutement qui se fait sans offre d'emploi parce que c'est très coûteux en énergie, c'est très déstabilisant. Si en gros, on a en tête quelqu'un qui nous plaît, qui pourrait correspondre, on ne va pas se poser la question de faire une offre d'emploi. Enfin, clairement, le processus de la création du recrutement est tellement dur, tellement chronophage et en plus tellement incertain que si on a la bonne personne, on prend. Donc, avoir des espaces de frottement avec les potentiels employeurs, structures employeuses, c'est vraiment un moyen de trouver. Ce n'est pas sûr et certain, mais c'est mettre beaucoup plus de chances de son côté, surtout si vous avez des parcours où le CV n'est pas forcément à votre faveur. C'est-à-dire que concrètement, vous avez fait des études que vous n'avez pas finies parce que vous avez commencé un boulot dans lequel vous avez été reconnu, mais vous avez fait votre conversion. Et là, en fait, si on regarde votre diplôme, vous n'avez qu'un bac plus 2, clairement, potentiellement, vous êtes disqualifié au moment de la candidature, alors que vous êtes surqualifié le jour où vous montrez sur le terrain ce que vous valez. Et donc, si vous avez plutôt un parcours qui n'a pas une très forte reconnaissance universitaire, l'engagement, la rencontre, la formation, c'est clé. Notre coordinatrice de la pépinière, Lucille, qui a fait une nouvelle voie, elle est devenue coordinatrice de la pépinière parce qu'on l'a reconnue comme personne qui était super chouette comme bénévole, comme super accompagnatrice, comme quelqu'un qui fait un bon mémoire, qui tenait bien la route, parce que sinon elle a un bac plus 2 en technicienne de laboratoire, donc elle ne correspond pas du tout à un profil qu'on recrute pour coordonner une pépinière d'initiative, pas une pépinière d'arbre quoi. Et du coup, après ces temps d'apport, on va passer aux questions, donc mes 3 questions aux invités, dans l'ordre des photos, mais ça sera toujours de cet ordre-là, donc on peut s'autoriser à changer l'ordre après pour commencer ensuite par Caroline et ensuite par Claire à la question d'après. 3 questions. La première, donc du coup, celle-là a plusieurs points d'interrogation. Quels sont vos métiers? Sur quel poste vous recrutez régulièrement et pourquoi vous recrutez en ce moment? Est-ce que c'est du développement ou du renouvellement et du coup, dans le cas spécifique de Claire, tu parleras à la fois en tant que GRAP, mais aussi au nom des activités que vous représentez, ce qui permet d'avoir et la vision du GRAP en tant que coopérative et la vision d'une épicerie ou d'un transformateur qui fait des steaks végétaux, ce que j'ignorais, ça m'intéressera à titre personnel pour une prochaine fois.
Alors, pour Élise, les métiers. Donc, déjà, je m'étais noté quelques chiffres pour vous donner une idée. Donc, aujourd'hui, on est 110 personnes. On est répartis sur deux sites à Villeurbanne, un dédié à la collecte en camion, un dédié à la collecte en vélo, parce qu'on fait de la collecte à vélo. Martin parlait d'essayer de faire de son mieux. Ben, c'est un bon exemple, en tout cas pour Élise, d'avoir essayé de décarboner notre flotte pour collecter à vélo. Donc on a deux sites et on a aussi des personnes qui sont sur site client, et plutôt des métiers de collecteurs et de trieurs directement sur site client. Donc 110 personnes et l'année dernière, on a recruté 42 personnes. Donc juste pour vous donner une idée, alors après, je n'ai pas les chiffres exacts entre les métiers de collecte qui sont plus des métiers en tension pour le coup. Surtout, c'est assez précis parce que la plupart du temps, on recrute quand même majoritairement des personnes qui ont des reconnaissances travailleurs handicapés. Donc ça peut faire impressionnant. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas bien chez Élise et que tous les gens on recrute la moitié parce que la moitié s'en va. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de turnover dans nos métiers de collecte et de tri. Et puis, un chiffre aussi intéressant dans le cadre de cette conférence, on a deux apprenants, anciens apprenants de nouvelles voies en CDI chez nous, dans les bureaux. Donc on en est très fiers et très contents. Mais on y reviendra. Et les métiers chez nous, donc on a toute la partie exploitation, vous vous en doutez, donc, que Martin a déjà évoqué, des personnes qui gèrent la collecte, le tri des déchets, donc collecte en vélo ou collecte en camion. On a toutes les métiers support à l'exploitation, donc on va dire tout ce qui est planification, manager de collecte, tout ce qui est vraiment lié au métier de la logistique. Donc c'est des métiers qu'on retrouve chez nous, mais qu'on peut retrouver dans tout un tas d'entreprises qui font de la logistique et du transport. Et parfois on a beaucoup de mal à trouver des intitulés de titres quand on poste les offres d'emploi. Donc je rejoins ce que tu disais, de ne pas s'arrêter à son job d'avant, à ce qu'on a fait, à ce qu'on n'a pas fait. C'est surtout des compétences qu'on recherche et des compétences qui sont liées à l'organisation, la planification, vision d'ensemble, plein de choses qui sont plus de l'ordre des compétences que de l'ordre des expériences passées. Et puis après, assez classiquement dans une entreprise, toutes les fonctions support, donc la partie commerciale pour ce qui concerne mon service, donc commercial, suivi client, accompagnement, animation aussi chez les clients, et puis RH, comptabilité, toutes des professions qu'on retrouve dans plein d'entreprises. Et donc on recrute de plus en plus parce que comme l'entreprise grandit de plus en plus, on va dire il y a 5 ans, la personne qui gérait les RH gérait aussi la partie administrative et financière. Et puis aujourd'hui, la personne qui gère les RH est accompagnée de 2 personnes et la partie administrative et financière est constituée de 4 personnes. Donc ça, c'est sûr que plus on grandit, plus les postes se subdivisent, se redivisent et on réécrit l'histoire en fonction des profils, en fonction de nos besoins. Donc on est en permanente évolution et puis reconstitution des équipes. Et puis, oui, parce que ce que tu disais sur où est-ce qu'on recrute le plus, on recrute le plus sur des métiers de collecte et de tri. Et je te rejoins, je pense que ce n'est pas forcément les postes qui vous intéressent le plus, et encore, on est quand même ouvert. Pas mal sur les fonctions commerciales au final, parce que comme on grandit beaucoup, on a eu des grosses vagues d'alternance et puis maintenant les personnes partent tester d'autres opportunités, donc on a eu pas mal de recrutements sur les secteurs commerciaux.
Alors nous à Arthropologia, on recrute beaucoup moins et beaucoup moins souvent, mais c'est vrai que l'asso aujourd'hui compte 23 personnes et on a doublé les effectifs en quelques années, donc ça a créé aussi de nouveaux métiers. On a une partie de nos équipes qui sont vraiment des entomologistes et botanistes avec des compétences assez précises, et là-dessus je dirais qu'on a quand même pas trop de mal à recruter, puis on a peu de turnover, donc les gens restent, on les forme et ça reste. Après, c'est tous les métiers support liés au développement, la communication, les RH, l'administratif, la coordination, le management, des métiers qui n'existaient pas chez nous avant et qui se développent de plus en plus et où on a un peu de mal à recruter parce que soit on a des personnes qui viennent de métiers de biodiversité et qui veulent se mettre à la com ou à la coordination ou chargé de projet et qui n'ont pas forcément les compétences en arrivant. Et on a du mal à attirer des gens qui ont des compétences au départ, mais qui se sentent pas légitimes parce qu'on est une asso très axée biodiversité, pollinisateurs, insectes, et qui pensent que ça ne va pas coller. Alors qu'en fait, si, on a besoin de recruter vraiment des gens avec des compétences au départ. L'asso, aujourd'hui, elle a bientôt 25 ans. On a très souvent recruté des jeunes, pendant très longtemps, des jeunes pour qui c'était le premier emploi. Et ça fait quelques années qu'on recrute des personnes en reconversion. Et franchement, c'est hyper riche pour l'asso, parce qu'on a des gens qui ont fait toute leur carrière à l'asso et qui connaissent finalement pas autre chose. Et on a des personnes qui arrivent avec un bagage, des choses à apporter à l'asso. Et ça, je trouve que c'est vraiment riche d'arriver dans une structure avec des compétences, une méthodo, un autre regard qui nous fait évoluer aussi. Parce que même nous, en tant que direction, on a un comité de direction, donc on est trois à la direction. Et nous aussi, ça fait longtemps qu'on est là. Quel poste que, oui, voilà. Et peu de recrutement, mais en général, c'est un peu souvent les mêmes sur les fonctions support.
Alors, quels sont nos métiers ? Donc, dans la coopérative, dans l'ensemble du groupement de coopératives chez Grappe, il y a plus de 300 personnes avec beaucoup de types de métiers différents. Donc, j'en ai un peu cité tout à l'heure, mais donc on a des personnes qui sont épiciers, épicières, des cuisiniers, des traiteurs, des restaurateurs. Je féminise pas tout, mais dans ma tête, je féminise. Des chocolatiers, des brasseurs de bière, des boulangers, des pâtissiers, donc des transformateurs. Hein, c'est par exemple ceux qui font, comme on l'a dit tout à l'heure, des steaks ou des bocaux de légumes en lacto-fermentation, n'importe quel type d'activité de transformation. On a aussi des food trucks, on a un négociant en vin et des consultants. Donc on a vraiment une très très large palette de métiers dans l'alimentation. Dans l'équipage, comme on l'appelle chez Grappe, donc c'est les fonctions support, donc c'est les personnes qui vont travailler au service de toutes ces activités. On a des personnes qui sont donc accompagnateurs, donc qui font l'accompagnement économique et plus ou moins auprès de toutes ces activités pour les aider dans leur prise de choix, dans leur prise de décision, dans leur prévisionnel, dans tout ce qui concerne la vie économique de leur structure. Nous avons des personnes qui sont comptables, des personnes qui sont donc gestionnaires RH, comme moi. Mais on a aussi des informaticiens, puisque chez Grappe, on a un logiciel, un ERP qui est développé en interne par un informaticien. Et des logisticiens, puisqu'on a un service de logistique aussi qui permet de faire des commandes groupées entre tous nos points de vente. Parce qu'on rayonne dans toute la région Rhône-Alpes, pas l'Auvergne, mais toute la région Rhône-Alpes. Donc nos secteurs d'activité sont très larges sur une grande région. Donc il y a tout le temps plusieurs annonces de recrutement sur le site internet de Grappe pour au moins une de nos activités que je viens de citer. En ce moment, par exemple, il y a des offres d'emploi en épicerie, en boulangerie, en Savoie, parce qu'on a une boulangère qui part. Un poste de cuisinier et chez Papier et Papote, qui est un restaurant épicerie en Isère. Et donc, c'est aussi intéressant d'aller consulter ces offres d'emploi parce qu'elles parlent aussi du type de profil qu'on recherche et elles ne ressemblent pas, en règle générale, aux offres d'emploi sur ces mêmes professions. Dans l'équipe interne, donc sur les fonctions support, comptable, etc., on recrute de temps en temps. Il y a un petit turnover quand même, notamment sur les postes, par exemple, d'accompagnateurs. Ça peut être des personnes qui sont elles-mêmes issues des métiers que je vous ai cités, par exemple la boulangerie, l'épicerie. Des fois, on a des personnes qui repartent après avoir passé un temps accompagnateur, qui repartent dans leur métier d'origine. En tout cas, c'est là où on a le plus fort turnover. Mais on recrute aussi de temps en temps pour agrandir l'équipe. On est plutôt, on a eu une augmentation de l'équipe interne très forte ces dernières années. Maintenant, c'est plutôt en voie de stabilisation. Mais la direction, c'est quand même un petit peu plutôt le recrutement que le contraire. Et non, ça, c'est les questions suivantes. Alors, j'y réponds pas tout de suite.
On va regarder quelle est la question suivante, du coup. Pouvez-vous nous raconter un de vos derniers recrutements et votre prochain, ce sera quoi ? Donc, comme tu veux, est-ce qu'on peut passer... Tu gardes la main ? Vas-y.
Alors, notre dernier recrutement, justement, c'était au mois de décembre 2024, donc il y a très peu de temps, dans l'équipe interne, dans l'équipe support. Et c'est justement ma collègue du pôle social qu'on a recruté. Donc... je vais pouvoir témoigner vraiment directement de ce recrutement et aussi des problématiques qu'on a à se poser puisque on doit recruter une personne qui va devoir quand même avoir au mieux les compétences immédiates et au pire, j'ai envie de dire, un savoir-être qui va nous donner confiance sur la possibilité que cette personne intègre rapidement ses compétences. Sur des aspects très techniques du métier, puisqu'on réalise des fiches de paye, des contrats de travail, mais aussi sur des savoir-être très importants, parce qu'on accompagne toutes ces structures dans toutes leurs questions autour de leurs équipes. On est vraiment leur premier interlocuteur pour toutes leurs questions. Et puis, on va devoir aussi intégrer une équipe plus globale, un groupement de coopératives, et donc participer à la gouvernance de notre outil de travail qui est Grappe, participer à des groupes de travail, avoir une envie d'investissement qui va être très forte, tout en acceptant de passer parfois des journées entières à faire des tâches très techniques et qui demandent beaucoup de concentration, avec des salaires qui sont clairement en dessous du marché, donc de l'emploi, hein, du marché de l'emploi. Quand on recherche quelqu'un dans l'équipe...
Tu peux peut-être préciser pour qu'on sache ce que ça représente, parce que du coup, ça peut être flou si le marché de l'emploi en général, ou c'est votre secteur, c'est-à-dire vraiment vos métiers à vous, et ça représente un peu quoi?
Nous, le salaire brut horaire chez Grappe, il est à 14 euros, il est entre 14 et 15 euros de l'heure, donc ça fait 1800 euros brut, hein, quelque chose comme ça. Et donc on a toujours un petit peu l'impression de rechercher le mouton à cinq pattes. Les questions qu'on se pose, là c'était pas une création de poste, c'était le renouvellement d'une personne qui partait. Les questions qu'on est amené à se poser, c'est qui compose le pôle actuellement pour qu'il reste toujours un équilibre entre justement des personnes qui vont être très focus et très motivées sur les questions très techniques liées à nos emplois de base, en fait, qu'on doit faire et qu'on doit faire avec qualité, et aussi tout l'aspect coopératif et participation à notre structure. Il faut qu'au moins au sein de notre pôle cet équilibre soit rempli, et au sein aussi de tout Grappe, il faut que cet équilibre soit présent aussi. Donc ça va faire que pour un même poste, suivant les années, on recrutera pas forcément le même profil, en fonction aussi de l'équilibre comme ça qu'on doit garder dans notre équipe de travail. En l'occurrence, on était parti pour ce dernier recrutement sur l'idée qu'il fallait quand même quelqu'un qui était très motivé sur l'aspect coopératif. Et on a recruté effectivement en interne. On a reçu des candidatures, mais On a recruté une personne qui était épicière justement dans une épicerie de chez Grappe et qui avait fait auparavant ses études dans les ressources humaines, qui avait un master 2 dans gestion des ressources humaines, donc qui connaît en même temps très bien nos structures, très bien la coopération et très bien le métier. Donc là, c'était un recrutement qui était très réussi pour nous. Voilà, mais du coup, on se pose vraiment la question à chaque fois de la manière aussi de rédiger nos offres d'emploi. C'est vraiment un casse-tête pour, en même temps, ne pas faire l'impasse sur les parties métiers, qui sont, somme toute, très importantes, et en même temps, faire comprendre que toute la dimension extrêmement transversale et intéressante de nos métiers. Nos métiers pour le coup de la coopérative, de faire partie de cette coopérative. Et c'est aussi très important pour nous de pouvoir mesurer dans quelle proportion la personne a de l'appétence et la capacité aussi de travailler en autogestion, puisque donc nous, chez Grappe, on travaille sur l'horizontalité, donc il n'y a aucun encadrement. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une particularité et il faut qu'on soit sûr que la personne soit motivée et prête pour ça, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre des personnes en insécurité après au travail. Plus classiquement, le déroulé d'un... Je le dis rapidement.
Ouais.
Ça fait longtemps déjà.
Ouais, ça va être... si je déroule tout en recrutement, ça risque d'être... risque de faire sauter les délais, mais du coup, en quelques mots, et puis le
en
prochain...
En quelques mots, juste, chez nous, voilà, il y a toujours deux... Du coup, il y a deux entretiens. Un premier entretien, justement, plus métier au sein du pôle, et un deuxième entretien avec nos référents d'équipe ou DDG qui vont plus, justement, vérifier la grappo compatibilité, comme on l'appelle, justement, c'est l'autogestion et le partage des valeurs.
Et juste quand même, est-ce que tu as un prochain recrutement
oui,
qui vient ?
Justement, les prochains recrutements dans l'équipe interne, ce sera très probablement un comptable en création de poste, hein, ou une comptable, et un accompagnateur, une accompagnatrice en renouvellement, en turnover.
Non. Alors nous, notre dernier recrutement, donc il a tout à fait un lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure concernant les apprenants. On a recruté Sarah en décembre, qui est une ancienne apprenante donc de la promo dernière, et qui, pour le coup, je me retrouve totalement dans ce que tu disais. Nous, c'est pareil chez Élise. On existe depuis 2011. Pendant toute la première phase, je dirais. Les 10 premières années, on a beaucoup cherché des moutons à 5 pattes, des gens qui savaient un peu tout faire, qui étaient surtout très engagés dans la structure et qui pouvaient s'adapter aux changements que j'évoquais tout à l'heure, parce que en 3 ans, on peut passer de 20 personnes à 50 personnes. Donc forcément, il faut des personnes qui font preuve d'agilité et qui ont des compétences un peu transverses pour pouvoir un peu switcher de poste en poste au gré de l'évolution de la structure. Et on a aussi pris beaucoup de jeunes parce qu'on avait des salaires aussi un peu attractifs. Voilà, c'était aussi, ça faisait partie de l'histoire de la structure émergente. Et maintenant, on arrive à une phase depuis 2-3 ans où on est plus structuré, où on est plus stabilisé sur notre modèle. Et on recherche des gens qui ont de l'expérience. Donc pour nous, vraiment, l'Institut Transition, c'est vraiment génial, parce qu'on recrute des personnes qui sont... qui viennent à nous pour une compatibilité de valeurs, mais pour autant qui ont aussi des parcours qui peuvent apporter à la structure. Et le cas de Sarah, c'est exactement ça. Elle a été 10 ans commerciale chez Canal et chez Lagardère. Elle se retrouvait plus du tout sur les valeurs pour des raisons que vous devez, j'imagine, comprendre. Et donc, elle recherchait... pour autant, elle aimait bien le poste de commercial, elle se sentait à l'aise avec ça. Et donc, pour nous, avoir Sarah, c'est exactement ce qu'il nous faut. Enfin, c'est quelqu'un qui est en phase avec nous, à qui on peut aussi proposer un salaire qui n'est plus le même qu'on proposait il y a 10 ans. Donc, il reste totalement dans les fourchettes que tu as évoquées, Martin, dans les fourchettes centrales. Et puis, donc voilà, c'est très chouette pour nous. Et pour les prochains recrutements, pour la partie bureau, on est surtout sur... je pense qu'on va ouvrir un ou deux postes sur des fonctions commerciales et d'accompagnement, sensibilisation. Voilà. ce sera plutôt ça. Et après, on n'est jamais à l'abri de nouvelles opportunités. De toute façon, on les poste tout le temps.
Chez Arthropologia, dans nos derniers recrutements, c'était surtout lié à la com, où on a vraiment galéré pendant 3 ans à trouver les bonnes personnes. Soit on avait, comme je disais tout à l'heure, des personnes issues des ingénieurs environnement, des personnes issues de la biodiversité, qui voulaient évoluer vers des métiers de com. Et on a essayé, on en a pris, mais... Comme nous, c'était des nouveaux métiers chez nous, on n'a jamais eu personne à la com. Ça, il n'y avait pas de savoir-faire, pas de compétences. Enfin voilà, ça manquait vraiment. Et je pense aussi lié au salaire qu'on propose en asso. On n'arrivait pas à avoir des personnes vraiment issues du milieu de la com qui viennent chez nous, ou des personnes qui étaient vraiment éloignées des valeurs qu'on portait. Voilà, on peut se retrouver des fois en entretien avec quelqu'un qui nous dit qu'il part tous les week-ends au ski et que l'été, elle va faire le tour du monde en avion. Il n'y a rien. Enfin, à un moment, on se raccroche à rien, et sans dire que voilà, on cherche que des personnes complètement engagées. On a besoin de trouver un peu de lien aussi entre nous. Donc, on a eu 3 postes plus ou moins liés à la com. C'est vrai qu'on a fait un peu notre marché aussi à l'Institut Transition. On a eu une personne qu'il a fallu vraiment lui donner confiance, parce que c'était autour de la mobilisation, autour des pollinisateurs. Elle ne voulait plus faire de com. Et en fait, on savait que ça allait coller parce qu'elle avait fait un stage d'apprenant chez nous. Et au final, elle est venue et ça se passe franchement hyper bien. Elle est arrivée avec tout son savoir-faire, ses compétences. Et puis... chez nous aussi, des fois, on a du mal à recruter parce que les gens, comme on travaille sur la biodive, forcément, ils veulent faire du terrain, ils veulent mettre la main à la pâte, aller planter des haies, aller recenser des papillons, des abeilles. Et des fois, nous, on a des métiers, bureau. Et les gens, ils sortent pas de chez nous. Et donc, il faut trouver aussi des gens qui ont cette appétence-là. Donc là, comme ça y est, j'espère, je croise les doigts, on a une équipe stable. Mais bon, c'est 3 personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui viennent toutes les 3 de la com, qui toutes les 3 voulaient plus en faire. Voilà. La com autour de la biodive, ça a dû changer un peu les choses. Et le prochain recrutement, donc j'ai du mal encore à poser un peu sur le papier à quoi ça va ressembler, mais ça va être un chargé de projet lié autour de la mobilisation, autour des jardins, jardins et biodiversité, jardins et pollinisateurs. C'est un projet, on a eu un gros mécénat sur plusieurs années là-dessus, et on voudrait accompagner la prise en compte de la sauvegarde de la biodiversité, des pollinisateurs, auprès de tous les jardiniers du dimanche, des personnes qui passent du temps au jardin et qui aiment ça, mais qui n'ont pas encore eu le truc de dire « Ah bah oui, je peux planter cette espèce pour les pollinisateurs, ou je peux arrêter de tomber toutes les semaines, et c'est pas la mort. » Donc voilà, quelqu'un vraiment autour de la mobilisation. Donc à nouveau, c'est pas un métier qui sera sur le terrain, mais en lien avec des gens, et pour mobiliser largement.
Top, merci beaucoup. Et c'est quand même un conseil qui, pour moi, a de la valeur que tu... partage, c'est que moi souvent c'est moi qui accompagne la plupart des personnes qui arrivent dans Nouvelle Voie avec un peu les métiers de la com, du commerce, etc. Enfin, j'en ai accompagné pas mal, et t'as toute une étape à essayer de leur faire se réconcilier avec leur métier. Et en fait, je pense qu'il y a un enjeu pour un certain nombre de personnes de se réconcilier, alors parfois avec le métier, parfois avec ses compétences, simplement, pas forcément le métier, comme tu disais Marine, et de se dire en fait j'ai des compétences, elles peuvent resservir, je suis pas obligé de faire une reconversion à 360. C'est pour ça aussi qu'on parle beaucoup d'évolution professionnelle. Nous, on n'utilise jamais le mot de reconversion, qui correspond à des basculements. Effectivement, si je décide de devenir épicier ou épicière, il y a une grosse transformation de mon métier et de ma vie. Par contre, si je me retrouve à la mobilisation chez Arthro et que je viens de la com et que je faisais beaucoup de communication média, en fait ça colle bien, quoi.
Et on s'adapte aussi dans nos structures avec les compétences et les envies des personnes qui arrivent et ce qu'elles peuvent développer. J'imagine c'est l'avantage de petites structures comme ça ou associatives, qu'on a vachement de souplesse par rapport à une grosse boîte.
Et la dernière question, c'est vraiment en 2 mots pour avoir le temps de basculer sur les questions de la salle aussi. C'est est-ce que vous avez un conseil, et il y a bien écrit, c'est au singulier, un conseil. Je sens qu'il y en aura 2 pour certains ou certaines. que vous donneriez à une personne en évolution professionnelle pour basculer vers vos métiers. Et le but du jeu, vous ne vous êtes pas concertés les unes les autres, donc ce sera de réussir à ne pas dire les mêmes. Mais le primeur à toi, Caro, qui a la chance de commencer.
Eh bien, je dirais les compétences. Il va toujours me reprendre, lui, mais me reprendre. Faire confiance. Oui, mettre vraiment en avant ce qu'on peut apporter à la structure avec vraiment son expérience et ses compétences. Enfin, l'engagement, tout ça, c'est tout plein de choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'expérience, ça fait 25 ans que je suis arthropologia. Et maintenant, aujourd'hui, vraiment, ce que je regarde, c'est les compétences. Est-ce que cette personne, elle a les compétences sûres pour le métier et de l'expérience? Est-ce que la personne, moi, c'est pas un conseil, hein, mais tout ce qu'elle peut apporter de par son vécu et de son expérience. Ouais, vas-y,
c'était un conseil pour lui. Non, c'était bien. Ça, j'avais un conseil un peu similaire, donc comme ça, ça va me permettre de dire les autres. Non, mais c'est rapide. Non, il y a vraiment un sujet sur la confiance. Vraiment travailler sur votre confiance avant de vous présenter en entretien. Je sais que c'est un peu facile à dire, mais je vois tout le temps en entretien des gens qui sont incroyables, qui ont des parcours géniaux et qui s'excusent d'exister. Donc il y a vraiment un enjeu de légitimité et voilà, d'avoir confiance en ce que vous pouvez apporter à la structure et de travailler sur ça avant de vous présenter. Ça pourra vous aider peut-être pour l'entretien. Parce que parfois, on a dû dérouter certaines personnes parce qu'on s'est dit qu'elle n'est pas encore prête. Je parle au féminin parce que c'est un problème, ce qui est surtout féminin, malheureusement. Ensuite, je rebascule sur la confiance, mais faites-vous confiance aussi, ayez confiance en votre instinct. Si vous arrivez dans une structure, tu as beaucoup parlé du statut qui ne fait pas la vertu. Si vous ne le sentez pas dans l'entretien, vous ne sentez pas les personnes, vous pouvez vous faire confiance parce que parfois il y a de belles structures sur le papier qui ne le sont pas réellement et ça peut être de grosses désillusions. Donc je pense qu'il faut aussi s'écouter. Et dernière chose. En entretien, évitez les phrases un peu trop type greenwashing. Moi, personnellement, ça n'engage que moi, mais j'ai horreur de ça, les gens qui disent « je veux sauver la planète » ou « je veux... » En fait, c'est bien quand on a 15 ans, mais je trouve que, personnellement, ça me rebute un peu. Je trouve qu'il faut être plus peut-être honnête et sur son parcours et ce qu'on peut apporter, sur ses failles, sur les engagements écologiques et sociaux. Personne n'est parfait. Donc, je pense que c'est bien... De montrer son vrai visage, qui on est, ce qu'on peut apporter, ce qu'on doit encore travailler. Mais c'est important d'être honnête.
Mais tu décourages pas, par contre, de dire qu'on a un engagement écolo ou qu'on a
non,
un déclic
non, non,
qui...
Non.
Oui, c'est ça.
C'est hyper important, mais il y a des phrases un peu trop typées greenwashing que beaucoup de grosses entreprises utilisent. Donc je vous conseille d'aller lire leur site et d'essayer de ne pas utiliser les mêmes...
D'aller lire
tournures.
Le vôtre et d'utiliser vos tournures.
Oui, bah peut-être, je sais pas. Après, il y a des tournures classiques type la bienveillance qui sont des mots fourre-tout et qui sont pas toujours sincères pour certaines boîtes, mais voilà, c'était mon petit conseil perso. Et encore une fois, ça n'engage que moi. Peut-être que ça plaît à d'autres personnes, je sais pas.
Faut pas dire que tu vas au ski, par contre. C'est ça, tous les week-ends. Au ski, c'est quoi la norme qui est autorisée chez Arthropologia? Même le ski de fond ?
Non, c'est le ski de fond, tout ça, tu as bien.
Moi aussi, je dirais, comme conseil, peut-être faire un peu. Prendre à rebours, effectivement, en général, comment on prépare les entretiens pour des structures plus classiques, parce qu'effectivement, je pense que là, ce qui compte, c'est je pense aussi vraiment une dimension humaine. On se le dit pas comme ça parce que ça fait un peu bizarre, mais en vrai, après derrière, on recrute aussi un peu nos futurs amis. C'est-à-dire qu'on va passer nos journées ensemble, on va faire des projets ensemble autour de nos valeurs. Donc en fait, l'aspect humain, c'est aussi ça que ça veut dire derrière. C'est on va quand même donner un petit accent sur est-ce qu'en fait ça va être, ça va me donner, est-ce que ça me donne envie de travailler avec cette personne, bien plus que est-ce qu'elle maîtrise totalement cette compétence. Et je pense que l'honnêteté, c'est vrai, et pour une fois, à cet endroit-là, dans nos entretiens, je pense, dans nos structures, est de mise. Et de parler aussi de ses envies, de ce qui nous motive dans la vie, et sur les compétences transversales, comme on dit beaucoup. C'est vraiment l'occasion, voilà, même sur des fois, nous, sur des fiches de poste très techniques, se faire confiance et oser postuler, c'est, je pense, très important.
Merci beaucoup. Je pense qu'on pourra déborder 10 petites minutes pour avoir un peu plus de temps pour les questions, qu'on a commencé un petit peu en retard, vu que la conférence précédente a commencé un petit peu en retard. Vous avez beaucoup, par contre, parlé d'entretien. Donc, juste pour rappel que les entretiens, comme on disait, ne sont pas les seuls moments de recrutement. En fait, il y a plein d'autres moments et d'interpellation. Et donc, avoir en tête que, encore une fois, les engagements bénévoles, participer aux ateliers, aux événements, aux activités des différentes structures, les entretiens métiers quand on n'a pas trop le choix, les formations type Nouvelle Voie, mais aussi d'autres, peuvent être plein de moyens de se frotter les missions avec Nouvelle Voie. Ça peut être des immersions professionnelles avec Pôle emploi, avec France Travail. Il y a pas mal d'occasions et qu'en fait, ça peut être beaucoup plus fertile si on arrive à éviter ce moment de la candidature et du recrutement avec l'entretien d'embauche, mais surtout la candidature, parce qu'en fait, là, vous êtes parti du principe qu'on a été recruté, mais on a plein d'apprenants apprenantes qui candidatent et qui, en fait, n'ont juste même pas l'occasion. Enfin, celle qui est Lucille qui a été recrutée en Dila, elle n'a pas l'occasion de faire des entretiens parce qu'ils ne lui proposaient pas, en fait. Et nous, c'est parce qu'on la connaissait, qu'on savait ce qu'elle valait, qu'on a pu lui proposer. Donc, en tout cas, ayez en tête que le moment du recrutement, c'est à la fois le jour J, mais c'est en fait tout ce qui se passe avant et qui fait aussi que même à l'entretien, vous êtes complètement décontracté parce que vous savez avec qui à vous parler, vous savez comment leur parler, parce que vous connaissez la structure par rapport à un recrutement où vous débarquez complètement et vous êtes sur 50-100 candidatures qui sont parties sur les 3 derniers mois et que du coup, c'est du travail à la chaîne, quoi.
Bah nous, quasiment tous les derniers recrutements, ça s'est fait comme ça. Hein. Ils n'ont même pas été publiés. Donc oui, tu as raison d'insister là-dessus. Et sur les mises en situation via Pôle emploi, ce qu'on appelle les PMSMP, il y a peu de gens qui connaissent, mais je vous encourage à creuser parce que nous, on prend beaucoup de PMSMP et ça permet de se mettre en situation et de découvrir la structure et de savoir après quand il y a... Parfois, les gens font des mises en situation et puis 2 ans plus tard, ils postulent parce qu'ils voient un poste. C'est pas toujours la mise en situation et ensuite, je postule. Mais c'est un travail préparatoire.
Et les PMSMP sont possibles quand vous êtes salarié. Donc, vous avez la possibilité... en tant que salarié, d'avoir des immersions professionnelles. Donc c'est intéressant à avoir en tête que ce n'est pas limité aux personnes qui sont en situation active de recherche d'emploi.
Et en plus, ça marche dans les deux sens. Ça permet à la personne de découvrir la structure, les personnes avec qui potentiellement elle pourrait travailler. Et j'irais de pas hésiter aussi à envoyer des candidatures spontanées. Où, moi, je les garde tout le temps parce qu'à un moment, des fois, il n'y a rien. Bah ouais. Et puis à un moment, bah oui, ça peut être 2 mois, 6 mois après, enfin un coup de la vie, et puis on recrute. Et effectivement, nous, l'objectif, mais j'imagine, j'ai l'impression vous aussi, c'est d'éviter le recrutement classique, la publier, enfin faire une offre d'emploi, la publier, recruter, entre les délais et tout ça, ouais, c'est vraiment
c'est pour ça que vous permettez cette petite question et apport supplémentaire, qu'on ait beaucoup parlé de l'entretien d'embauche comme si c'était un peu l'alpha et l'oméga, alors qu'en fait, c'est un peu plus la marge. Du coup, je vais prendre quel micro ? C'est celui qui est noir ? Ouais, je vais prendre ce micro et du coup, je vais me balader pour donner le micro aux uns et aux autres. Qui a des questions ?
Comme ça, j'ouvre le bal et puis peut-être ça donne des idées aux autres. Je voulais rebondir sur ce que disait Mme Portera sur faites-vous confiance. Nous sommes tous et toutes en transition, a priori, donc on a tous des métiers autres fait avant de postuler chez vous ou ailleurs. Quel conseil est-ce que vous pouvez nous donner donc, pour valoriser les expériences qu'on a acquises dans des domaines qui ne sont pas du tout le vôtre, par exemple ?
Je pense qu'il y a plein de compétences en réalité. Enfin, si on se réfère pas au métier, mais qu'on reste sur les compétences, c'est assez neutre. Donc, par exemple, je sais pas, de la gestion de projet, ou il y a plein de choses qu'on fait dans des métiers divers qui sont plus des choses qu'on a acquis au fur et à mesure de nos expériences pro. Par exemple, je suis quelqu'un de méticuleux, d'organisé, je suis quelqu'un qui respecte les délais, enfin, je sais pas, être un peu plus focus sur ce qu'on est capable de faire et pas sur... Moi, ça me dérange pas de recruter un commercial qui me dit « je connais rien au secteur des déchets ». En fait, c'est pas grave. On va se mettre. Je vais te donner tous les contenus. Je vais te laisser 3 semaines pour te plonger dedans. Si t'es quelqu'un qui sait gérer un projet, qui a une fibre humaine, qui est connecté aux gens, qui part pas dans tous les sens, c'est ça qui va m'intéresser. Donc ça, entre guillemets, ça peut être n'importe qui a la personne qui allait faire une école de commerce ou une école d'ingé ou même pas d'école, peu importe, c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser. Donc voilà, je pense que ces compétences-là, on les a tous. Donc il faut vraiment essayer de décorréler le côté métier avec le côté compétence. Je sais pas si ça répond à votre question. Un petit peu.
Bonjour. Élise, donc la société, vous êtes en rang 2 pour des... Comment on fait pour exister avec les grands du déchet? Vous êtes en rang 2 sur des grands du déchet ou vous êtes en prise directe avec des sociétés, avec les sociétés pour leur collecte?
Non, on existe en rang 1, mais on n'est pas sur les mêmes échelles. On ne répond pas au marché de la collectivité, par exemple. On répond vraiment aux entreprises en direct. Ouais. Donc ça ne va pas être les mêmes besoins. C'est des entreprises qui veulent plus travailler sur le côté RSE, accompagnement global et autres, plus que sur juste j'ai des déchets à collecter et venez les collecter.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Petite précision d'ailleurs que tu n'as pas dit sur les compétences, c'est quand même que toi tu es directrice commerciale en ayant fait une formation en droit de l'environnement quand même.
Totalement, j'ai absolument jamais fait d'école de commerce.
D'autres questions? Non. Nous finirions à l'heure. Ça, c'est tellement pas habituel avec moi que j'en suis tout intimidé. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Est-ce que Caroline, tu veux te lancer dans une grande allocution de 10 minutes?
Non mais Martin, c'est l'heure, c'est parce que tout le monde a faim là.
C'est
tout
ça, c'est la dit, fin. C'est une manière comme une autre de gérer le collectif, la faim. Très bien. Merci à toutes et à tous d'être là. Dans tous les cas, on reste en bas un petit peu pour des questions que vous voudriez poser dans l'intimité de cette fosse. Ah, okay. C'est pour le podcast que tout le monde sache que ça, on a été applaudi. Et du coup, on se retrouve au fur et à mesure de la journée. N'hésitez pas à aller voir justement les associations qui peuvent être des ports d'entrée comme la Maison de l'Environnement, Ancilla ou nous à l'Institut de Transition ou The Greener Good pour vous donner des pistes aussi d'endroits à aller voir. Et puis vous avez plein de témoignages métiers, plein de d'autres opportunités pour avancer. Et bonne suite de la journée et on se croise.